Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des filles. Nous leur donnons la parole pour une leçon de résistance et d'espoir face aux violences dont elles sont victimes dans de nombreux pays, notamment les mariages précoces et forcés. Comment font-elles pour s'en sortir, envers et contre tout? En direct, dans le studio des 7 milliards de voisins, Sonita, rappeuse afghane, réfugiée aux États-Unis. Bonjour Sonita. Hello.
Hello.
Vous êtes de passage à Paris. Vos parents voulaient vous marier extrêmement jeune. Vous devez votre salut à une chanson de rap et à un cri de colère qui a été posté sur Internet. Vous allez nous raconter votre adolescence de l'Afghanistan à l'Iran qui fait aujourd'hui l'objet d'un documentaire et qui va sortir demain sur les écrans. Et vous êtes traduite en direct grâce à votre interprète Jashmid Golmakani. Merci beaucoup Jashmid d'être avec nous aussi en direct. Nous allons aussi entendre des femmes au Bangladesh comme Radha Prani, 21 ans aujourd'hui, qui s'est enfuie pour ne pas être mariée à l'âge de 14 ans, ou Runa Khan, aristocrate, divorcée d'un mariage arrangé également au Bangladesh et qui lève aujourd'hui des millions pour sauver des filles pauvres qui n'ont pas évidemment sa chance. En studio, l'ONG Plan International, bonjour Yvan Savy.
Bonjour.
Vous êtes directeur de Plan International France et votre ONG se mobilise avec cette campagne qui démarre. Les filles ont un plan, on voit le jeu de mots, évidemment ça signe aussi un combat. Vous organisez avec l'aide de vos ambassadrices comme Rana Prani, une grande mobilisation internationale. Également avec nous Isabelle Gillette-Faye, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous Isabelle Gillette-Faye, vous êtes sociologue, vous êtes directrice du GAMS, groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines. Vous êtes vraiment une des militantes les plus engagées pour le respect de l'intégrité physique des femmes et vous menez des actions sur le terrain, y compris dans un pays comme la France. Vous étiez venue nous en parler il y a quelques mois pour des jeunes filles qui sont menacées d'être mariées au bled, comme on dit communément, c'est-à-dire dans leur pays d'origine. Ça se passe souvent pendant les vacances sans que personne ne s'en aperçoive vraiment d'ailleurs. Et quant à vous, les voisins, les voisines, si vous vous sentez concerné par le sujet, comme personne engagée ou comme victime de violence, appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et sur les réseaux sociaux, bien sûr, Facebook, Twitter, c'est la journée internationale des filles. Mais tout de suite, écoutez le témoignage de Radha Prani, 21 ans. Elle est née dans un village du nord-ouest du Bangladesh. C'est la cinquième fille d'une famille qui ne comptait aucun fils, d'ailleurs au grand désespoir des parents. Le papa est journalier dans le bâtiment, sa mère vend des paniers, sauf que Radha est une enfant parrainée par l'ONG Plan International. Elle est donc sensibilisée très tôt au fléau des mariages précoces, un engagement qui ne la quittera pas. Charlie Dupuis a rencontré Radha il y a quelques jours lors de son passage à Paris. C'est un visage d'enfant au sourire confiant qui raconte son histoire et finalement celle de 15 millions de filles chaque année dans le monde.
J'ai deux sœurs qui ont été mariées à l'âge de 12 ans. La troisième a eu plus de chance. Elle a pu attendre d'avoir 18 ans. Elle n'avait pas été élevée par mes parents. C'est mon père qui a décidé de marier les aînés aussi jeunes. Il a été influencé par ses amis. Ils lui ont dit « Tu as 5 filles et pour toutes les marier, pour payer toutes leurs dots, ça va te coûter cher. Alors mieux vaut s'y prendre tôt. » Plus la fiancée est jeune, moins la dot que le père doit payer à la famille du mari est élevée. C'est pour cette raison que mon père a marié mes grandes sœurs à cet âge-là. Mais certaines sont revenues vivre à la maison, avec leur mari, avec leur bébé. Lui pensait qu'elles iraient vivre dans leur belle famille. Il s'est retrouvé à gérer ce fardeau. La famille s'agrandissait et il fallait nourrir tout ce monde. Il a pris une décision. Mon autre sœur et moi, nous étions les deux filles encore célibataires qui lui restaient. Nous aurions le droit de continuer nos études afin d'avoir un emploi et de gagner notre vie. Et en plus, contrairement à nos sœurs mariées, nous pourrions être heureuses.
Et puis votre père est décédé. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite pour toi ?
J'avais 14 ans quand il est mort. Très rapidement, j'ai vu la pression sociale qu'on a fait peser sur ma mère pour que je me marie. Dans le village, on lui disait « Il n'y a plus personne pour ramener l'argent à la maison. Sans homme dans la famille, comment vais-je vivre, moi, la petite dernière ? Qui va pouvoir me prendre en charge, être responsable de moi? Pour eux, il fallait me marier, c'était la seule solution. Et ma mère a reçu une proposition alors que les funérailles de mon père n'étaient même pas encore terminées. Vous imaginez la pression. Mais j'ai refusé.
Quel âge avait le prétendant ?
Il avait 21 ans, 7 ans de plus que moi. On m'a emmenée de force chez ma belle-famille pour me préparer en vue de la cérémonie. Je pleurais. Les frères du marié m'ont disputée, on m'a même enfermée dans une pièce. Pendant plusieurs jours, j'ai attendu de pouvoir m'enfuir. À un moment, quand mon beau-frère est venu m'apporter de la nourriture, j'ai profité de la porte ouverte pour m'échapper.
Tu as couru pour sortir ?
Oui. Même si tout le monde au sein de cette belle famille a critiqué mon geste, je suis revenue chez moi en courant, chez ma mère. Ils m'ont cherché sur le marché et dans les alentours, à moto. Puis ils ont compris que j'étais revenue vivre avec ma mère. Là, mes sœurs sont venues et l'une d'elles m'a giflée. Elle m'a dit que je n'aurais pas dû m'échapper avant le mariage, que j'étais une honte pour ma famille.
Aujourd'hui, tu es devenue ambassadrice pour Plan International, l'organisation, et tu t'engages contre les mariages précoces au Bangladesh. Pourquoi ?
Je hais les mariages d'enfants parce que j'ai vu ce que ça donnait pour ma mère. Elle a été battue par mon père. Elle n'était pas en bonne santé. Elle ne pouvait pas se nourrir en quantité suffisante dans notre famille trop nombreuse. J'ai vu aussi ce qu'ont vécu mes sœurs mariées jeunes, celles qui sont revenues vivre à la maison. Il y a aussi plein d'autres exemples dans mon village. Tout ce malheur renforce ma décision, celle de lutter contre les mariages forcés, pas seulement le mien. J'aimerais ne pas être une histoire, unique ou rare, qu'il n'y ait pas seulement une Radha, mais qu'un jour, d'autres filles comme moi s'opposent à leur propre mariage pour continuer leurs études et réaliser leurs rêves.
Toi qui aimes chanter, est-ce que tu aimerais nous chanter une chanson pour donner de l'espoir à ces filles qui pourraient fuir un mariage forcé ?
Oui, il y a une chanson que je chante avec les groupes de jeunes filles que je sensibilise. C'est une chanson qui parle des droits de l'enfant. Et je suis heureuse de voir que toutes les filles membres de ce groupe la connaissent par cœur.
শিশুদের ন্যায্য অধিকার যত শিশুদের ফিরিয়ে দাও।
Sonita Alizadeh, vous êtes avec nous en direct dans le studio. Vous venez d'entendre le témoignage de Radha Prani qui vient du Bangladesh. Vous avez grandi entre l'Afghanistan et l'Iran. Je vous ai vu sourire et rire même en l'entendant chanter. Vous, ce n'est pas tout à fait le même genre de musique que vous chantez, c'est du rap.
Oui, c'est vrai, dans sa chanson, Radha, elle chante plus lentement que moi, je chante rap, mais ce qui était important, ce sont les poids de mots. Et c'est les mots qui sont aussi forts pour faire agir la population, les gens à qui nous nous adressons.
Sonita Alizadeh, vous avez échappé à votre destin grâce au rap et à YouTube. Votre clip a été vu plus de 600 000 fois, c'est ça, aujourd'hui ? Sur Internet ?
از طریق رپ خوندم و این که خدا رو شکر من کسی رو داشتم از من حمایت کنه و فکر میکنم همه دخترم اینقدر قدرت داشته باشن و شانس اینو نداشته باشن که ازشون حمایت کنه و من از طریق رپ تونستم داستانم رو بگم و خیلی انتظار نداشتم این همه آدم کلیپ من رو ببینه چون یه جایی دیدم 2 میلیون نفر دیدنش و همه هم شعرش کردم
Et moi, j'essayais à travers de rap de m'exprimer. Mais je suis sûr et certain que beaucoup d'autres filles dans le monde, ils ont autant de force et d'attitude que moi. Mais la chance que, oh, elles, d'autres filles n'ont pas, c'est manque de soutien. Moi, j'avais ce soutien-là. Et puis, mais j'attendais pas du tout d'avoir autant, d'être autant vu sur Internet.
Oui, c'était une surprise. Hein. Ça, c'est toute la viralité d'Internet. Yvan Savy, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les mécanismes à l'heure d'Internet, à l'heure où on peut tout poster sur Internet, où ces jeunes filles ont bien sûr accès à Internet? Qu'est-ce qui fait que ces mariages précoces et forcés continuent de perdurer à notre époque?
Mais c'est vrai que l'Internet aujourd'hui est en train un peu de changer la donne, parce que ça donne à la jeunesse de ce monde la capacité à prendre la parole et à être entendue, comme le fait Sonita. Aujourd'hui, les mariages d'enfants sont en train de reculer dans le monde. Hein, donc c'est une bonne nouvelle, la tendance est bonne, mais ça continue.
Une fille sur quatre dans le monde aujourd'hui, et c'était une sur trois il y a une trentaine d'années.
Oui, tout à fait. Donc encore 15 millions de mariages forcés chaque année pour les jeunes filles. Un mariage toutes les deux secondes, c'est considérable. Et ce phénomène persiste. En milieu rural particulièrement, où l'accès à Internet et l'accès aux réseaux sociaux est plus problématique. Et déjà en milieu urbain, on voit que les jeunes s'emparent de ces médias. Rada est arrivée la semaine dernière. C'est l'une des premières choses qu'elle a eues dans notre dialogue avec nous. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble sur Facebook? Comment on peut relayer mon histoire? Donc, les jeunes sont très agiles avec l'Internet. Et ça va vraiment accélérer les choses, je crois.
Isabelle Gillette-Faye, pour vous, les derniers verrous à faire sauter aujourd'hui?
Je crois qu'on est toujours sur les mêmes verrous, c'est-à-dire la question de l'éducation des filles, qui va être absolument indispensable. C'est-à-dire que là aussi, on obtient des bons résultats. On s'aperçoit que les filles vont à l'école primaire, mais elles ne vont pas toujours jusqu'au secondaire. Donc, il faut qu'on gagne la bataille du secondaire, je pense. On voit bien les chiffres, hein, dans les pays d'origine. L'âge au mariage augmente. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc, il faut qu'on continue dans cette série-là et dans cette direction-là. Mais de toute façon, il y a des causes endémiques. On parle de la pauvreté. C'est une des raisons primordiales qui, probablement, font que ça se produise. Parce que les filles sont considérées en quelque sorte comme une marchandise, une monnaie d'échange. Et tant qu'on aura cette représentation des filles comme monnaie d'échange, c'est exactement ce que Rada racontait dans son témoignage. Il faut impérativement qu'on arrive à faire changer les représentations qu'on peut avoir des filles, et notamment intégrer le fait qu'elles ont des droits au même titre que les garçons, et qu'à partir de là, il est absolument nécessaire de leur garantir leur intégrité à tous les niveaux, et notamment en évitant les mariages précoces et dits forcés.
Sonita Alizadeh, vous avez 19 ans aujourd'hui. Vous êtes née dans l'ouest de l'Afghanistan, d'une famille de 8 enfants. Vous êtes, alors avec l'arrivée des talibans au pouvoir, votre famille a fui en Iran. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez eu l'impression que votre vie allait basculer?
آیا برای تو اون روزی رو میتونی برمون بگی که زندگی دگرگون شده باشه؟ دگرگون شد؟
همیشه من زندگی میچیره که مشکلات خیلی زیادی داشتم، شادی های خیلی زیادی هم داشتم، و چیزی که به من خیلی کمک کرده اینه که سختی های زندگی یه جوری منو ساخته، و وقتی هم که اسکالرشیپ گرفتم اومدم امریکا، زندگی من خیلی تغییر کرد، یعنی از نظر تحصیلات، از نظر امنیت و از نظر اینکه اعتماد خانواده رو به دست بیارم.
J'ai vécu toujours avec beaucoup de difficultés dans ma vie, et les moments joyeux aussi existaient, mais pas autant. Mais j'ai essayé toujours de me reconstruire. Depuis que je suis allé aux États-Unis, c'est vrai, il y avait beaucoup de changements. J'ai pu faire mes études, je me sens en sécurité. Et plus important, j'ai réussi à obtenir la confiance de ma famille.
Alors justement, la confiance de la famille, ou plutôt le combat au départ contre sa propre famille, on le voit bien dans les témoignages que l'on entend. Très souvent, le combat commence avec sa propre famille parce qu'il faut refuser le mariage précoce et forcé, bien distingué d'un mariage arrangé d'ailleurs. Ensuite, il faut donc accepter une forme, dans un premier temps en tout cas, une forme d'opprobre de sa communauté, de sa propre famille.
Tout à fait. C'est vraiment le moment le plus difficile pour les jeunes filles qui sont face à ces choix, cette décision, à un moment de dire est-ce que je me soumets aux traditions, à la façon dont ma famille envisage les choses, ou est-ce que je prends dans mon libre arbitre d'individu la décision qui me semble la bonne par rapport à mon existence. Donc c'est très important de pouvoir accompagner ces jeunes filles avant, pendant et après par rapport à ce qui se passe. Parce que ces traditions existent et vont perdurer. Il faut donner les moyens à ces jeunes filles avant de penser et au moment où elles prennent cette décision d'être présent à leur côté.
Isabelle Gillette-Faye, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus difficile, finalement, hein, surtout pour une jeune fille, de grandir avec son clan contre soi.
Ah, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle un conflit de protection, c'est-à-dire est-ce que je me protège moi-même ou est-ce que je protège ma famille, est-ce que je prends le risque de me marginaliser, de me mettre à l'écart. Sonita vient de le dire à l'instant, ce qui est le plus important pour elle aussi quelque part, c'est qu'elle a eu la confiance de sa famille malgré le fait qu'elle soit partie aux États-Unis. Donc on voit bien à quel point la place que la famille occupe au niveau des personnes et au niveau des personnes qui prennent le risque de s'opposer, de signifier qu'elles ne sont pas d'accord, qu'il y a toujours le risque de la rupture du lien. Donc, est-ce que je romps le lien avec ma famille, avec ce qui m'apporte tout ce bien-être affectif et physique et psychique et moral dont j'ai besoin? Voilà, donc la question, c'est est-ce que je me préserve moi ou est-ce que je préserve ma famille? Donc, il y a ce conflit de protection qui est très important. Et c'est en cela que les ONG qui sont sur le terrain jouent un rôle tout à fait essentiel, parce qu'elles deviennent ce groupe protecteur par rapport à la famille, et donc elles remplacent en quelque sorte la famille, bien souvent pendant un temps donné, c'est-à-dire que l'opprobre de la famille ne dure pas obligatoirement sur la durée, il faut aussi être attentif à ça.
Comment justement, Sonita, vous êtes parvenue ensuite à faire cesser le conflit avec votre propre famille? Racontez-nous ces relations.
چطور بالاخره موفق شدی که پایان بدی به این درگیری هایی که داشتی با خانوادت برای اینکه بهشون خودت رو بفهمونی؟
چیزی که باعث شد من مقابل خانوادم واستم این بود که یه ایده‌ای داشتم، یه هدفی داشتم، یه برنامه‌ای داشتم برای آینده‌ام و نمیتونم بگم همه چی رو خودم انجام دادم و خودم تونستم موفق بشم، برای اینکه از خیلی ها کمک گرفتم، از رخسار قائم مقامی، از کارگردان فیلم، از این جایی که من در اونجا بودم، اونا خیلی به من کمک کردم و اینکه به من باور داشتن، این باور باعث شد که من ادامه بدم و بتونم به هدفی که داشتم برسم.
جمشید، لانترپرت.
وای. Non, parce que c'est très important, c'est très pointu, c'est toute sa vie, cette société, le bouleversement de la société. C'est pour ça que je mets un peu plus de temps que d'habitude, le poids sur le loup, même pour moi,
bien
quand
sûr.
Je l'entends. Pour faire comprendre à ma famille. Et pourquoi je voulais me faire comprendre? Parce que j'avais des idéaux, parce que j'avais des objectifs pour mon avenir, que à tout prix je voulais atteindre mes objectifs. Mais si j'ai réussi, parce que je n'étais pas seul. Et la réalisatrice de film, Rochsare, elle m'a beaucoup aidé. L'association de défense, de soutien des enfants qui travaillent dans la rue en Iran, ils m'ont beaucoup aidé. Et pourquoi ils m'ont aidé? Parce qu'ils étaient convaincus de mes convictions.
Vous restez avec nous, Yvan Savy, Isabelle Gillette-Faye et vous, Sonita Alizadeh, invitée exceptionnelle, rappeuse afghane. C'est la journée internationale des filles. Aujourd'hui, on se retrouve juste après le flash. Journée qui donne évidemment la vie des filles, leur vie, leur avis compte plus que jamais parmi les 7 milliards, à condition évidemment de les écouter. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes avec vous, les voisins et les voisines.
Autour de la question. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines. Journée internationale des filles, gros plan sur les violences faites aux filles aujourd'hui, notamment les mariages forcés et précoces. Encore 15 millions de filles qui sont ainsi mariées avant l'âge de 18 ans chaque année. Bangladesh, Inde, Pakistan, Népal, Afghanistan, ce sont les pays qui concentrent le plus de la moitié des mariages non consentis dans le monde. Vous pouvez bien sûr nous appeler pour réagir ou pour témoigner. 33 1 84 22 71 71 si vous vous sentez concerné par ce sujet. Yvan Savy, vous êtes directeur de plan international France et donc votre ONG lance cette campagne « Les filles ont un plan ». Isabelle Gillette-Faye, vous êtes sociologue présidente du GAMS, directrice du GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Et évidemment, vous êtes extrêmement investi aussi pour lutter contre ces mariages arrangés, forcés surtout, forcés, et qui concernent y compris d'ailleurs des jeunes filles vivant en Europe et qui sont parfois renvoyées de force dans leur pays pour épouser un homme. Sonita Alizadeh, vous êtes rappeuse afghane, vous êtes de passage dans notre studio. Merci beaucoup d'être chez nous. Vous êtes... Vous avez d'abord été réfugiée dans un premier temps à Téhéran. Vous vivez aujourd'hui aux États-Unis. Vous avez dit non à un mariage forcé que souhaitaient vos parents qui avaient besoin d'argent pour payer la dot de votre frère. Et vous êtes d'ailleurs l'objet d'un documentaire qui porte votre prénom, Sonita, fait par une réalisatrice iranienne dont nous écoutons la bande-annonce.
مایکل جکسون رو
تو چی میدونی از سرنوشت من؟ من فردام روشنه نخو غم من.
I'm a rapper.
اونا منو میخوان، پسر مثلا منو میخره.
به خاطر 5 میلیون داری این کارو می‌کنی؟
مجبورم. شب اگر بچه آدم نون ندیش باشم آدم بیدیزی بیرون میشه.
چرا میگیری؟
به خاطر 4 گرم پول می بیچاره کنی بدبخت کنی که
پیاده آمده بودم پیاده هم میرم دل اسم قربتم شم شکسته میشه سفره خیلی حشم دگه بسته می کسی که از این کسی مدرسه محروم بود میره با ملیت و موت همه جون بود میره همون کودکی که هیچ وقت هم بزی ندش جز رفتن به مدرسه آرزویی ندش ما برم جایی که دگه نگن پلیسا آیم خوری با تو هم پایسا
Voilà, Sonita, Sonita, crient les petites filles. Ce documentaire, évidemment, il vous est dédié. C'est l'histoire de votre vie. Qu'est-ce qu'un documentaire sur votre histoire personnelle peut changer pour la vie de ces 15 millions de filles qui sont mariées précocement et forcées chaque année, Sonita ?
سونیتا تو شخصیت مرکزی این فیلم مستند هستی. به نظر تو یک فیلم مستندی به این شکل تا کجا به چه شکلایی میتونه کمک کنه تا وضعیت 15 میلیون دختری که زیر فشار ازدواج اجباری هستن از این وضعیت نجات پیدا کنه یا موقعیتشون بهتر بشه؟
این فیلم میتونه از خیلی جهت ها کمک کنه برای دخترها، حتی برای پسرها و مسیج اصلی که در این فیلم هست فقط فکر میکنم اینه که اگه ما ها حمایت کننده داشته باشیم و اینکه مهمتر از همه اینکه یه هدفی داشته باشیم حتما بهش میرسیم با پشت کار و با زحمت. دخترها مشکل اصلی که الان داریم اینه که دخترها فکر میکنن تنها چیزی که براشون الان میتونه میسر باشه اینه که بتونن ازدواج کنن و بچه داشته باشن تمام، ولی این فیلم شاید بتونه بهشون کمک کنه که بگه طرز فکرتون رو میتونین بالا ببرین، میتونین به چیزهای بزرگتر فکر کنین، میتونین به شغلی که واقعا دوست دارین در آینده داشته باشین فکر کنین و بهش میرسین. چیز
محال نیست.
یعنی میتونی بهش برسی.
جمشید گلمکانی، لانترپرت دو سونیتا، سی تا وو.
Et oui, c'est ce film pour aider les filles et les garçons en même temps. Et le message principal de ce film, c'est que nous obtenons du soutien. Et puis de dire, mais soutien n'est pas suffisant. Il faut que la personne concernée il soit disposé d'un objectif, des idées. Mais c'est sûr, c'est évident qu'il faut travailler durement, difficilement, d'une façon déterminée. Pour que les filles ne pensent plus que leur vie était limitée à se marier et faire deux enfants. Et ce film pour montrer qu'il y a d'autres à venir, il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres façons de vivre, qu'on peut avoir un métier. Et ce n'est pas impossible.
Yvan Savy, directeur de Plan International France.
C'est très important d'avoir en tête que les enfants, quand ils sont jeunes dans leur représentation, ont conscience de tout leur potentiel et comprennent pas les décisions que prennent les adultes à leur place. Donc si on leur donne les outils, et c'est ce que nous essayons de faire, nous, sur le terrain, pour que les enfants puissent faire valoir leurs droits, les garçons et les filles qui grandissent en ayant accès à ces outils, ensemble, disent « Non, on doit changer les choses ». Les garçons aussi changent de regard. Ils sont très importants, les garçons, à associer à ce travail.
Isabelle Gillette-Faye.
Oui, je pense que les jeunes peuvent aussi apporter des solutions nouvelles. C'est-à-dire que nous, les adultes, on peut penser à des solutions pour eux, mais eux aussi. Si, justement, si on prend la peine de les écouter, de les entendre, en particulier comme des jeunes femmes comme Sonita disent, avec des idéaux, on peut y arriver. Donc ça veut dire qu'on peut être jeune, être dans des sociétés où il y a des pratiques traditionnelles néfastes, comme le mariage précoce et forcé, mais on peut toutefois réagir. Il n'y a pas de fatalité à subir les choses et que les jeunes apportent des solutions à cela.
Et il est très important d'avoir en tête que ces jeunes veulent continuer à être en harmonie avec leurs parents. C'est-à-dire qu'ils veulent faire changer les traditions, mais pas au prix de se couper de leur famille. Ils aiment leurs parents. Et c'est très important pour eux d'arriver à faire évoluer les pratiques sans être dans un affrontement entre les générations. Et ça, je crois que quand on travaille sur le terrain, on entend cela. Alors, il y a des situations où c'est impossible de réconcilier, mais c'est ce qu'ils souhaitent vraiment, c'est arriver à faire changer tout en gardant le lien avec leur famille.
Sonita, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui estiment que des jeunes comme vous, finalement, ont fait le choix de la culture occidentale, bafoue les traditions et les cultures d'un peuple comme le vôtre.
C'è già avuto dire che a suoi bedi che fecono anche shoma zette sonnatoi khodetun darin amal mikonin va mirin be taraf farhang gharb Europa gharb America.
Ban be sonnatoi ke dar Afghanistan hast khel ehtiram mizaram va ide hay hame kasai ke fek mikonan. بعضی از سنت هایی که در افغانستان هست خیلی خوبه و من همشون بهشون احترام میگذارم ولی این سنت چیزیه که فکر میکنم بر ضد نسل منه و این که بیشتر خانواده ها رو میتونه برنجونه خانواده ها فقط نیاز دارن بدونن که راه های دیگه این هست برای دخترها نه این که فقط ازدواج کنم مثل خانواده من نگران بودن که من نتونم از خودم دفاع کنم و باید حتما با یه مردی باشم الان خودشون خیالشون راحت از این بابت به خاطر این که میدونن این امکان داره که دختر بتونه از خودش دفاع کنه و زندگی خودشو بچرخونه و فکر میکنم اکثر جوانا در افغانستان الان رپ رو زیاد میشنون و از کاری که من میکنم حمایت میکنن و تعداد زیاد جمعیت افغانستان هم جووناست و اونا میدونن چه راهی رو پیش بگیرن و از ایده من دفاع میکنن
Jamshid Gomakani.
Oui, moi je respecte les traditions en Afghanistan, mais toutes les traditions ne sont pas défendables quand même. Surtout ces traditions-ci, et ils sont contradictoires avec notre génération, jeune génération, et que ça fait souffrir les familles malheureusement. Mais c'est les familles qui doivent savoir qu'il y a d'autres voies, d'autres façons de vivre pour les filles, qui ne pensent pas que les filles doivent être protégées. Donc, il faut qu'elles se marient tout de suite. Mais maintenant, ma famille sait très bien que moi, je me débrouille très bien et je suis autonome.
Mmh. Isabelle Gillette-Faye, ça c'est un argument qu'on entend quand même beaucoup, hein, tout de même, dans les familles. Vous êtes souvent sur le terrain, cette rupture avec les cultures locales, avec les cultures des peuples, et tous les peuples ont besoin d'une culture. Comment expliquer que, par exemple, certaines traditions, comme, je pense au continent africain, les scarifications ou le limage des dents qu'on avait, par exemple, autrefois, qui signait l'appartenance à une ethnie, ça a été abandonné extrêmement, on a le sentiment, de manière assez rapide, assez simplement, finalement, alors que les mutilations féminines génitales perdurent, les mariages forcés perdurent. Pourquoi ?
En fait, on a différents systèmes explicatifs, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il s'agit, enfin, ça agit sur le corps des femmes d'une façon générale, ça met beaucoup plus de temps à reculer, parce qu'en fait, il y a à la fois des femmes qui ont intégré le fait que c'est normal, donc je l'ai vécu, je le reproduis, je le fais vivre à ma fille, donc il y a ce mécanisme de reproduction, des hommes qui ne sont pas obligatoirement très informés des effets que peuvent avoir, si on prend l'exemple des mutilations sexuelles féminines, on se rend compte qu'en général les hommes ne sont pas très informés de ce que ça représente et ce que ça peut être. Donc au final,
sur
on
la
a
santé notamment, bien sûr.
Notamment sur la santé. Donc on se retrouve au final avec des victimes qui elles-mêmes intègrent ça comme quelque chose de normal et sont dans la reproduction, et à la fois des alliés que pourraient être les hommes et qui pourraient aider à protéger ces femmes qui ne sont pas en mesure de le faire. Donc il y a vraiment un travail éducatif à faire, informatif à faire, c'est-à-dire que au même titre que les jeunes se saisissent aujourd'hui d'Internet et d'autres nouveaux outils pour intégrer de nouvelles façons d'intégrer des nouveaux savoirs, etc., de nouvelles formes d'informations sur différents sujets, de la même manière, il faut absolument qu'on continue à informer sur ces sujets pour que tout le monde s'en saisisse à l'échelle de la société.
Mais informer, alors que les lois maintenant condamnent dans de très nombreux pays, hein, le mariage avant l'âge de 18 ans, il y a quand même pas mal de lois qui sont passées. Non, tout de même, Yvan Savy.
Écoutez, non, le constat est malheureusement qu'aujourd'hui, il y a encore 144 pays dans le monde dans lequel il n'y a pas de législation nationale qui empêche les mariages d'enfants. Donc les trois quarts des pays du monde ont encore dans leur droit public une absence de cette protection.
Si on prend le cas par exemple du Népal, l'âge légal c'est bien 18 ans pour le mariage.
C'est l'un des trois pays qui cette année a passé à 18 ans, le Népal, le Guatemala et le Tchad. Oui. Donc il y en avait 147 l'année dernière. Il y en a
le Bangladesh, là aussi, mariage d'enfants est-il légal ?
Tout à fait.
Même si ce n'est pas respecté dans la majorité des cas.
Voilà, parce que vous avez le droit public qui coexiste avec le droit coutumier. Et donc le mariage est un acte traditionnel aussi. Et il faut comprendre que quand ce droit continue à s'exercer de manière très très forte, et sur ces choses-là, comme le mariage, ou comme les pratiques traditionnelles, les mutilations, il faut un cadre du droit public qui est posé, mais ensuite qui doit s'appliquer, et il faut faire évoluer les mentalités. Et ça se passe au niveau des communautés, avec les familles. L'importance de la communauté, il faut vraiment l'avoir en tête. Nous, dans notre démarche pour se libérer des pratiques comme l'excision ou des pratiques comme le mariage d'enfants, c'est des villages entiers qu'on fait évoluer pour dire aujourd'hui, nous tous ensemble, le village, on décide d'arrêter ça.
Isabelle Gillette-Faye, sur le droit coutumier.
Oui, je voulais juste dire que la France a quand même attendu 2006 pour avoir un âge égal au mariage pour les filles et des garçons à 18 ans. Donc, c'est facile de pointer les autres pays, mais il faut se dire qu'en Europe aussi, c'est pas aussi.
Auparavant, c'était 16 ans pour les filles.
C'était 16 ans pour les filles. Donc, je veux dire qu'il y a encore des évolutions. On est le code Napoléon jusqu'en 2016. Donc, ça montre. En 2006, pardon. Donc, ça montre bien qu'il y a encore des marges d'évolution possibles. Mais effectivement, là, je rejoins tout à fait l'analyse qui vient d'être faite. C'est que le mariage coutumier et le mariage civil continuent en fait à coexister l'un à côté de l'autre. Donc on a des évolutions législatives intéressantes et il faut absolument en avoir dans un grand nombre de pays. Mais il faut aussi se méfier des pratiques qui peuvent entraîner des mariages à des âges beaucoup plus précoces qu'on ne le souhaiterait.
Et puis à condition aussi que les lois soient reprises, que les populations se sentent concernées, se sentent effectivement englobées aussi, hein, dans la façon dont sont votées les lois. Vous pouvez bien sûr nous appeler, on parle à l'occasion de la Journée internationale des filles, de ces violences faites aux filles avec notamment le mariage forcé et le mariage précoce. Évidemment, c'est la fin de la scolarité bien souvent, et puis aussi tous les problèmes pendant lesquels surviennent, évidemment, je pense aux grossesses précoces, hein, parce qu'on n'en a pas parlé, mais évidemment, le mariage précoce, ça veut dire aussi des grossesses précoces, donc des risques importants pour la vie de ces jeunes filles. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. On écoute votre rap, Sonita, Brides for Sale. Épouse à vendre, c'est le titre de votre chanson, Sonita Alizadeh. C'est un rap de colère. Je ne sais pas si d'ailleurs aujourd'hui vous êtes une artiste ou une militante. Racontez-nous comment a été enregistrée cette chanson, dans quelles conditions, en Iran.
میتونی برمون تعریف کنی که توی چه شرایطی این کلیپ رپی که الان شنیدیم ساخته شد؟ کجا چطور؟
وقتی ایران بودم کارگردان فیلم با مادرم صحبت کرد و مادرم به من 6 ماه وقت داد که ایران باشم و مدرسه برم و من در کنار مدرسه از کارگردان کمک گرفتم، هزینه‌شو پرداخت و من ایده‌ای که داشتم در ذهنم برای میوزیک ویدیوم از اون کمک گرفتم و ساختم و این ایده از جایی اومد که من با دوستم صحبت می‌کردم که اون مجبور بود که وادار به ازدواج اجباری بود و تمام صورتش زخم بود، کبود بود به خاطر اینکه داشت تلاش میکرد که از این ازدواج در بره ولی نمیتونست. من فکر کردم یه تصویر واقعی از صورت یک عروسه.
Oui, c'était à ce moment-là, j'étais en Iran et la réalisatrice de ce documentaire, Rokhsare, à partir du moment qu'elle a rencontré ma mère, il y avait demandé un délai de 6 mois pour qu'elle puisse réfléchir, pour qu'elle se prépare pour ce mariage forcé. C'est entre-temps... Et elle m'a aidé, la réalisatrice, et puis de faire mon clip, tout que j'avais dans ma tête. Et à ce moment-là, j'ai discuté avec beaucoup d'autres filles qui étaient dans la même situation que moi, que pour devant le mariage forcé, elles avaient des bleus partout parce qu'elles étaient battues, elles avaient des blessures partout parce qu'elles subissaient des répressions physiques aussi.
Je voudrais qu'on entende maintenant un autre témoignage. Ça se passe au Bangladesh. C'est l'histoire d'une femme qui est, on peut dire, comme on dit chez nous, née avec une cuillère en argent dans la bouche, parce qu'elle a décidé de s'engager pour son pays, le Bangladesh. Elle est divorcée. Runa Khan a cofondé il y a près de 15 ans l'ONG Friendship avec son deuxième mari. Au départ, il s'agissait en fait d'un simple bateau qui était ensuite converti en clinique ambulante. Et aujourd'hui, l'ONG collecte 7 millions d'euros par an, qui œuvre dans tous les domaines, éducation, santé et droits des femmes, dans un pays où 3 filles sur 4 sont mariées avant l'âge de 18 ans. Charlie Dupiot a rencontré cette fille de l'élite au service des autres. Écoutons-la.
Je viens d'une famille très privilégiée. Quand j'étais enfant, c'était un chauffeur qui nous emmenait à l'école en voiture et nous avions 14 domestiques à la maison. J'ai grandi dans une vraie bulle. Puis j'ai été mariée, un mariage arrangé, on se marie entre nous, entre membres de quelques familles d'aristocrates du pays. À l'époque, je n'imaginais même pas travailler un jour dans ma vie. Et puis, 11 ans après cette union, j'ai divorcé et je me suis remariée avec un Français. Il m'a emmenée voir les rivières du pays, j'ai vu les îles sur ces rivières et j'ai réalisé que les gens qui vivaient sur ces îles étaient obligés d'être nomades, de tout le temps se déplacer.
À cause des inondations ?
Les inondations et puis l'érosion fluviale aussi. Tout ça détruit leur maison. À chaque fois qu'ils migrent, ils deviennent encore plus pauvres. Et cela m'a immensément ouvert les yeux. J'ai vu la pauvreté telle que je ne l'avais jamais vue au cours de ma vie. J'avais alors 39 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler, à lancer mon ONG.
Est-ce que vous vouliez aussi vous donner bonne conscience ?
Je ne me sens pas coupable d'être privilégiée et je préfère me servir de mon appartenance à l'élite pour demander de l'aide à ceux qui ont les moyens de nous la donner. Un jour, à un cocktail, une femme m'a dit « Je ne sais pas comment tu fais pour travailler autant avec les pauvres. À chaque fois qu'on leur donne quelque chose, ils en demandent plus et ils ne sont jamais satisfaits. » Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord et si j'avais été d'un autre milieu social, elle ne m'aurait pas écoutée. Je me sers donc de ma naissance, de ma position sociale pour accomplir quelque chose de positif.
Beaucoup d'observateurs disent que le Bangladesh a fait de grandes avancées dans le domaine du droit des femmes. Par contre, le pays aurait toujours le plus fort taux de mariage de filles de moins de 15 ans, selon l'UNICEF. Qu'est-ce que vous faites concrètement en faveur des femmes et de leurs droits au Bangladesh ?
Avec l'ONG Friendship, comme nous avons des antennes un peu partout dans le pays, nous avons créé des groupes au sein des villages, des groupes constitués de 20 volontaires, hommes et femmes, conformes à ces questions. Et quand ils entendent parler d'un mariage précoce prévu dans leur village, ils vont, en groupe, rencontrer la famille de la jeune fille qui doit se marier. Beaucoup ne connaissent pas l'âge légal du mariage, 18 ans pour la fille au Bangladesh. Il faut aussi expliquer à la mère tous les problèmes de santé qui peuvent résulter d'une grossesse précoce. Si la famille ne veut pas écouter, si même le chef de village n'arrive pas à les convaincre, alors notre groupe va voir la police. Et c'est la police qui empêche le mariage. Selon la loi, l'homme qui se marie avec une mineure peut aller en prison. Voilà, c'est un problème social, un problème de mentalité. Dès que la fille devient pubère, ses parents ont peur que quelque chose ne lui arrive, quelque chose qui fasse que leur fille ne soit plus bonne à marier.
Si elle tombe enceinte, en fait, c'est un déshonneur pour la famille.
Oui, et puis un autre problème, c'est quand une fille ne ramène aucun revenu à la maison.
Parce qu'une fille, c'est aussi une bouche à nourrir, en fait, pour la famille.
Absolument. Il faut d'abord s'assurer que ces filles aillent à l'école. Il faut qu'elles aient leur propre source de revenus. C'est ça qui va les protéger. Ça ne sert à rien de dire aux parents « ne mariez pas vos filles » si vous ne leur proposez aucune autre alternative.
Comment vous pensez qu'on peut aider les filles qui fuient des mariages forcés à s'en sortir alors qu'elles sont mises en général au banc de la communauté ?
Le meilleur moyen, c'est de faire en sorte qu'elles deviennent indépendantes financièrement. Et des ONG comme la nôtre doivent leur proposer une carrière, un métier. Nous en formons beaucoup à devenir institutrices. Pour d'autres, on a aussi mis en place des centres pour leur apprendre à tisser des vêtements. Tout ça pour qu'elles puissent retrouver une place dans la société, avec dignité.
Voilà, ça c'est le témoignage de Runa Khan, aristocrate au Bangladesh. Aujourd'hui, quel peut être, Yvan Savy, le rôle de la bourgeoisie, des élites dans ces pays-là ?
C'est avec les moyens qu'elles ont et la capacité à s'exprimer aussi dans les médias notamment, c'est de faire d'être un peu des alliés pour faire évoluer les pratiques et les représentations. Le mariage traditionnel, c'est effectivement la pauvreté empêche d'avoir des alternatives, comme on vient de l'entendre. Mais les traditions, ce n'est pas une affaire de riches ou de pauvres. Donc, voilà.
Isabelle Gillette-Faye, on a un peu l'impression tout de même, je me mets à la place de certains auditeurs, que souvent ce débat sur les violences à l'égard des filles, notamment mariage forcé, mariage précoce, mutilation sexuelle féminine et d'autres types de violences, sont un peu confisqués aussi par un débat au plus haut niveau, au sein de la communauté internationale.
Oui, ça c'est. Mais c'est parce que je pense qu'on ne connaît pas l'histoire de ce qui s'est passé dans ces pays-là. C'est-à-dire, je prends l'exemple des mutilations sexuelles féminines. Les premiers mouvements abolitionnistes sont partis d'Éthiopie au XVe siècle. Si on prend l'exemple des femmes au Cameroun qui ont mené les premières grèves des femmes au début du XXe siècle, au Sénégal, c'est pareil. Dans les années 70-80, les femmes ont pris la tête du mouvement pour revendiquer leurs droits, etc. Donc, je pense qu'un
on
peu
les entend moins aujourd'hui.
C'est pas qu'on les entend moins, c'est que je pense qu'on se donne pas la peine de les entendre. Au même titre que les jeunes, si on écoutait ces mouvements sociaux, ces mouvements de femmes, qui sont très anciens, qui sont très, qui se sont exprimés pendant des années et sont toujours là, à fleur de peau pour intervenir et pour réagir. Je pense que les principaux mouvements émancipateurs viennent effectivement des personnes elles-mêmes et pas obligatoirement on l'amène pas de l'extérieur.
Et c'est aux ONG de leur donner aussi de la parole et de faire entendre leur voix via les médias. C'est ce qu'on a tenté de faire aujourd'hui. Merci à vous tous, Sonita Alizadeh. Merci beaucoup d'être venue, d'être passée par le studio des 7 milliards de voisins, rappeuse afghane. Bien évidemment, on peut retrouver votre clip, le lien aussi vers votre chanson. Tout est noté sur notre site, sur notre page, sur Facebook, sur Twitter. Également, beaucoup de vidéos aussi qui sont... noté sur nos réseaux sociaux de l'ONG Plan. Merci à vous, Yvan Savy, de Plan International France. Et merci à vous, Isabelle Gillette-Faye, sociologue présidente du GAMS. Et merci à vous beaucoup, Jamshid Golmakani, interprète farsi. On se retrouve demain pour 7 milliards de voisins.
RFI parle au monde.